Donc nous sommes réunis pour parler du premier livre.
Oui.
D'Anne Duprez.
Dupré,
oui. J'ai une interrogation dans ma voix. Donc d'Anne Dupré, Claire Mauriac, le roman d'une mère. Donc il s'agit d'un livre sur une figure, la mère. Je ne vais pas parler de Claire, un petit peu incontournable dans l'œuvre de François Mauriac. Mais vous vous êtes attaché à retranscrire. Un peu plus que ça, j'aurai l'occasion d'y revenir. L'histoire de cette femme qui n'est non pas oubliée, mais que l'on connaît mal, bien qu'elle fût bordelaise. Et vous êtes attaché à retracer le parcours de manière extrêmement sensible. Vous êtes beaucoup attaché à ce personnage, entre guillemets. Ça se sent de manière extrêmement forte dans ces pages. Et donc, au préalable, il serait bien de resituer un petit peu d'où elle vient. C'est-à-dire, ce qui est assez amusant dans ce livre, c'est par rapport à... Et ce qui est fondamental dans l'histoire de cette femme, ce sont ses origines familiales, son père Raymond, sa mère Irma. D'autant qu'ils ont eu à Bordeaux, lui, il était fils de boulanger, il était né à La Réole, je crois. Elle était fils d'un raffineur. Et donc, elle naît dans ce milieu extrêmement sensible. Elle a deux sœurs et un frère qui disparaîtra, je crois, dans sa jeunesse. Ce qui est intéressant par rapport à ce père et ce mère qui vont être vraiment un foyer, qui vont construire un foyer extrêmement uni, c'est la petite histoire du papa, de sa boutique au Magot. Alors peut-être vous pouvez nous dire un petit peu d'où elle vient.
Oui, alors déjà, c'est une belle rencontre, effectivement. Puisque c'est une femme que j'ai côtoyée au départ en faisant des circuits sur François Mauriac, puisque je suis conférencière à Bordeaux. Mais j'ai complètement redécouvert sa vie aussi, moi, au départ, au travers des recherches que j'ai faites. Et c'est vrai que j'ai découvert aussi son père. Je savais qu'il avait ce magasin du Magot rue Saint-James, donc à l'angle de la rue Saint-James et de la rue Teulère, juste en arrière de la grosse cloche quand on est cours Victor Hugo. Mais j'ai découvert aussi dans ce Raymond Coiffard, quelqu'un d'abord qui est un travailleur acharné, comme l'était aussi le père, le grand-père de François Mauriac, Jacques Mauriac, mais qui est surtout très moderne, enfin en tout cas il m'est apparu très moderne. C'est quelqu'un qui a un sens des affaires extrêmement affûté, ne serait-ce que pour comprendre qu'il faut mettre une publicité immense avec marqué Au Magot, en direction du cours Victor Hugo sur la grosse cloche. D'ailleurs, c'est pourquoi on fait souvent l'erreur de penser que le Magot était entre le cours Victor Hugo et la grosse cloche, mais il était derrière. Et du coup, les premières photographies vont photographier ce monument de Bordeaux extrêmement important, et ça va devenir des cartes postales qu'on va envoyer un peu partout. Et donc, partout, on aura Au Magot du 38 au 42 rue Saint-James. Donc, Claire est née au-dessus du magasin, donc dans cet immeuble bourgeois, si vous allez voir, qui existe toujours. Et c'est vrai que j'ai découvert aussi, dans les lettres de cette famille, puisque heureusement, ils s'écrivent beaucoup, on n'est pas encore au temps des SMS, et ils s'écrivent avec beaucoup de tendresse. Alors sans doute que dans les attitudes, ça n'était pas aussi évident. Mais c'est vrai qu'on sent un lien très fort entre les parents eux-mêmes, donc Raymond et Irma, et entre les parents et leurs enfants. Donc ce Raymond signe souvent « ton père qui t'aime »,« ton petit papa chéri », enfin. Donc c'est vrai qu'au départ, ça étonne, surtout quand on a lu les romans de Mauriac.
Alors par contre, c'est une famille extrêmement pieuse.
Oui. Donc. Alors Raymond Mauriac, Raymond Coiffard, pardon, je ne sais pas exactement s'il était très pratiquant, mais Irma Abriba, donc Irma Coiffard, la mère de Claire, a déjà cette foi craintive, en fait, que va avoir Claire tout au long de sa vie. On sent que la pratique d'un rituel peut-être un peu pesant est importante pour ces femmes. Et on a un peu l'impression que ce sont elles qui, par leur prière, veillent sur le foyer pendant que les messieurs travaillent.
Alors, en fait, il y a déjà un petit lien indirect avec les Mauriac, qu'on aura l'occasion d'y revenir, par le cousin Léonce.
Exactement, oui.
Oh, vas-y.
Et ce Léonce, c'est pareil. Quand j'ai commencé ce travail, je me posais la question de savoir comment Claire Coiffard avait pu épouser Paul Mauriac, donc que vous connaissez sans doute sous le nom de Jean-Paul, mais que j'appelle Paul puisque toute sa famille l'appelait ainsi, et parce qu'on présentait le père de François Mauriac comme républicain, anticlérical. Claire Mauriac catholique très pratiquante, plutôt, en tout cas, anti-Dreyfusarde et peut-être un peu contre la République aussi. Donc, je ne comprenais pas comment il s'était marié. Ce qu'on nous donnait comme raison, c'était un mariage arrangé. En fait, c'est faux. C'est un couple qui s'aime énormément. Et le lien est un lien familial entre ces deux familles de marchands, puisque les Mauriac sont des marchands de bois et les Coiffards, au départ, des marchands de grains et farine, qui vivent tous dans la vallée de la Garonne. Et ils ont effectivement, les parents de François Mauriac ont un cousin germain commun. Ils ne sont pas cousins, eux, mais leur cousin germain, c'est Léonce Coiffard, qui a une mère qui s'appelle Catherine Mauriac, qui est la sœur du grand-père de François Mauriac, et un père qui s'appelle Émile Coiffard, qui est le frère du père de Claire Coiffard. Donc c'est lui qui va faire le lien. Et j'en suis persuadée, puisque j'ai lu des lettres, j'ai pu reconstituer le fil de cette rencontre, puisqu'à la bibliothèque municipale, il y a des lettres de Léonce, il y a des lettres de Paul Mauriac à Malagar, et on voit bien que le père de François se sert de son cousin pour la rencontrer, comme il écrit dans ses lettres, en soulignant.
On va revenir sur cette rencontre, parce qu'elle est en plus un peu amusante, hein, oui, parce qu'elle se fait place des quinconces à travers un cirque. Auparavant, pour juste remettre quelques repères du côté de Paul Mauriac, donc de rappeler, avant de parler de leur rencontre, lui, quelles étaient ses origines. Et c'est important, parce que autant Claire est une femme de la ville, oui, autant par le côté Mauriac, on va vers l'ouverture à Hollande, à la Gironde, oui, etc.
Oui, alors Paul Mauriac, il est né à Saint-Pierre-d'Aurillac, comme son père Jacques Mauriac. Donc ce sont effectivement au départ des bateliers, sans doute. Jean Mauriac, l'arrière-grand-père de François, est d'une famille de bateliers au bord de la Garonne. Et lui déjà devient marchand de bois, donc de bois mérin pour faire les barriques de vin. Et Paul, effectivement, grandit dans la maison qui s'appelle Les Arocs, qui existe toujours au bord de la Garonne, à Saint-Pierre-d'Aurillac. Et il a des pages très belles, puisqu'il écrit son journal quand il est adulte, et il se rappelle de son enfance au bord de la Garonne. Donc, il apprend là, sans doute, une sensibilité par rapport à la nature qu'il va garder toute sa vie, et qu'aura finalement son fils, sans savoir que son père l'avait déjà.
Déjà, donc, par rapport à Paul, il y a autant Château-Lange, qui est une maison des Coiffards, excusez-moi, parce que les maisons sont aussi très importantes dans l'univers de François Mauriac. D'ailleurs, Françoise Lalanne avait fait un joli travail sur les maisons et les lieux de François Mauriac. Donc, Château-Lange, c'est une jolie propriété qui était à Gradignan ou à Talence. Gradignan, tandis que les Mauriac, en 65, qui étaient acquis en 64 pour Château-Lange. Par contre, les Mauriac, ils achètent la fameuse maison de Génitrix en 65.
Alors, je crois qu'il l'a fait construire.
Il l'a fait construire,
oui, ouais. Il me semble que c'est lui, que c'est Jacques Mauriac. En tout cas, il fait construire des entrepôts à peu près en 1865 au bord de la voie ferrée à Langon. Et je suppose que c'est lui qui fait construire la maison.
Alors, dans ce livre, en fait, où il est question beaucoup de Claire, il y a évidemment une importance accordée à Paul. Paul avait deux frères, dont un qui est, sur lequel on reviendra aussi, qui est Louis, qui a été un petit peu le protecteur de la famille Mauriac après sa disparition. Il a un autre frère dont il est proche. Et puis, père, c'est quelque chose que l'on connaît peu dans leur histoire. Il y a un petit frère qui s'appelle Georges.
Non, Henri. Georges, c'est chez les Coiffards.
Voilà, je suis père. Donc, il perd, il a deux ans. Et oui, il perd, parce que c'est quand même aussi, il y a beaucoup d'histoires de deuil.
Oui, il y a beaucoup de deuil, mais il y a aussi, alors, ce qui est intéressant, c'est que chez les Mauriac, il y a la même tendresse déjà entre les membres de la famille. Même Jacques Mauriac écrit à ses fils adultes, j'ai hâte que tu rentres pour te serrer dans mes bras. Donc c'est vrai qu'on ne s'attend pas forcément à lire ça. Et effectivement, Paul a un frère qui lui est très proche, qui est Louis, qui a deux ans de moins que lui. Ils sont presque comme des jumeaux, parce qu'on sent qu'ils ne peuvent pas se séparer. Dès que l'un est loin, l'autre le rejoint. Et ils ont un petit frère qui a 16 ans de moins que Louis et 18 ans de moins que Paul, et qui malheureusement, oui, tombe malade. Il a une grippe très forte. Et au cours de mon travail, il s'est passé des choses très émouvantes aussi. Je travaillais un jour de novembre à Malagar. Je lisais des lettres, donc j'ai lu une lettre qui disait « Henri », puisqu'il s'appelait Henri, va très mal. C'est Jacques Mauriac qui écrit ça à ses deux fils qui sont loin. Et il leur dit « Le médecin n'est pas très confiant, mais je pense qu'il va guérir, etc. » Il y a une date sur cette lettre, bon, je ne la connais plus par cœur. Et l'après-midi, je demande à Patricia Brunetto, qui s'occupait de moi pour les archives, est-ce qu'on pourrait aller au cimetière de Langon.
Excellent archiviste.
Oui, que je connaissais, mais je voulais retourner sur la tombe des Mauriac. Donc, on ouvre la partie au cimetière de Langon. Et en lisant le nom de ce petit Henri Mauriac, je m'aperçois qu'il était mort le jour de la lettre que je venais de lire. Donc, en fait, dans le même prolongement, j'ai lu la lettre « Henri va très mal » et je me suis retrouvée devant sa tombe une heure après. Donc, des choses que j'ai revécues presque, moi aussi, très fort. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de deuil, mais on sent que ces personnes s'en sortent aussi grâce aux liens de tendresse qu'ils ont entre eux.
Alors... Sur Paul, en fait, lui, il est un petit peu différent dans son identité que Claire. Hein. Il aime la République. Vous citez un passage où il a la dent dure contre Napoléon III. Il aime la vie culturelle à Bordeaux. Il partage son existence entre Langon et Bordeaux. Donc, ce sont deux parcours un petit peu dissemblables. Il n'y a pas la même foi que celle... que l'on peut connaître. Il aime aller se promener du côté des Landes qui provient de sa maman. Donc il est sur une identité un petit peu différente. Pourtant, ils vont se rencontrer. Alors, il a eu une première fiancée, peut-être une Écossaise ou une Anglaise, avec laquelle il n'a pas réussi à conclure. Et puis finalement, il va rencontrer l'âme sœur, si je puis dire, avec Claire, et dans des circonstances assez romanesques.
Oui. Alors, en fait... Par le biais de ce cousin germain commun, je suppose qu'ils ont dû se croiser, puisque les familles se voient souvent. Mais c'est vrai que dans le journal de Paul, puisqu'il écrit donc beaucoup sur ses journées, et c'est quelqu'un on sent que l'écriture est importante pour lui, dans ce qu'on appelle le journal de Langon, qu'il écrit en 1874, il parle effectivement d'une Miss Marie, qui s'appelle Marie Hamilton, parce qu'il essaye de cacher plus ou moins l'identité de cette jeune femme, mais il se coupe, en fait, donc on arrive à comprendre qui c'est. Et puis, bon, cette jeune femme, apparemment, n'est pas amoureuse de lui, donc peut-être qu'après, mais c'est quand même 3 ans après, donc il recroise sans doute cette fausse cousine, qui est Claire Coiffard, et apparemment, il n'est pas insensible à son charme, puisque c'est lui qui va aller chercher l'aide de Léonce, donc le fameux cousin, pour essayer de rencontrer cette jeune femme. Et c'est vrai que la rencontre est assez étonnante, puisque tout va se dérouler lors d'un spectacle de cirque en novembre 1877 au Quinconce.
Alors, ils se marient et ils feront, comme dans les contes pour enfants pour de nombreux enfants, ils auront 5 enfants. La première, c'est Germaine. Mmh. Ensuite, il y aura Raymond. Oui. Alors, je ne sais pas si je suis dans le. Il y aura Jean, Pierre et François.
Voilà, parfait.
Ouais, je connais un peu mon. Enfin, c'est pas bien de dire ça. Je connais un tout petit peu l'histoire de la famille Mauriac. Et on voit, contrairement aux idées qu'on pourrait avoir, puisqu'on dit souvent en parlant de François Mauriac qu'il était dédoublé par rapport à ses origines, son père et sa mère, la mère incarnant un catholicisme assez rigoriste, pétri d'Action française, anti-Dreyfusard, alors que le père est républicain, etc. Beaucoup moins clérical, pour pas dire anticlérical. Or, en fait, ça a été un couple très uni par-delà ces différences, comme si ces différences n'étaient pas si importantes que ça. D'ailleurs, on retrouvera ça un petit peu dans le parcours de François Mauriac, ça a été dit, mais de manière peut-être plus profonde, et ça, vous soulignez des choses importantes de ce point de vue-là. En fait, ça a été un couple terriblement uni.
Amoureux, oui. Oui, alors je pense que c'est de toute manière la réalité plus nuancée que ce qu'on en dit avec le temps. Parce que sous sa plume aussi, ce Paul Mauriac n'est pas aussi agressif que ce qu'on pourrait penser contre la religion. Il dit qu'il ne croit plus, mais il dit si on me demande ce en quoi je crois, je suis bien embêté pour répondre. Mais il a été élevé à l'institution de Toulaine, près de Langon, où il a eu des cours d'instruction religieuse, où il a des prix d'ailleurs, donc... Il suit ça avec beaucoup de sérieux. Son père aussi. Donc, ils ne sont pas aussi acharnés que ce qu'on présentait dans ce portrait quand on opposait les deux parents. Et il y a en tout cas beaucoup de respect. Donc, je suppose que sentant une foi sincère chez sa femme, même si peut-être qu'il trouve que le rituel est un peu trop rigoureux et peut-être pesant, il accepte tout à fait cela. Donc, il y a beaucoup plus de nuances, en fait, à apporter à cela. Et il y a surtout, effectivement, beaucoup d'amour. Et ça, c'est écrit... je ne l'ai pas inventé, dans les lettres de Paul à sa femme, il est très très amoureux. Et Claire, une fois devenue plus âgée, a brûlé toutes les lettres qu'il lui avait écrites, ou pensait-elle avoir tout brûlé, puisqu'il y en a quelques-unes à la bibliothèque. Il y a énormément d'amour entre ces deux personnes.
Alors malheureusement, et on connaît notamment dans Commencement de vie ce moment très douloureux pour cette famille et pour François, parce qu'il est tout petit quand son père décède, il meurt. Et d'ailleurs, vous citez, ou je crois que c'est vous, il y a cette phrase que vous dites, c'est « La douleur est désormais une affaire entre elle seule et son Dieu ». Moi, j'ai un petit peu le sentiment, je vais revenir là-dessus, c'est que l'image que l'on s'est faite de Claire est davantage tributaire de ce qui s'est passé, de son histoire après la mort de son mari, de ce qu'elle était avant. Et c'est peut-être pour ça où on est un peu cliché à son endroit, alors que c'était quelqu'un qui a été assez lumineux, a priori lumineuse, pardon, avant ce deuil terrible.
Oui, alors d'ailleurs, c'est pourquoi dans le livre, il y a une géographie, c'est-à-dire que quasiment à la moitié du livre, il y a la mort de Paul. Et c'est vrai que j'ai beaucoup insisté sur toute leur vie avant ce deuil, même si malheureusement, ils n'ont que 9 ans de mariage, puisqu'ils meurent assez tôt, et sur la lumière qu'il y avait avant, parce que, à mon sens, ça donne la clé. C'est-à-dire que cette femme, oui, elle avait un côté sombre, elle avait un côté... sans doute pas marrant, mais ça s'explique par ce deuil qui est un vrai cataclysme, en fait. Et c'est pour ça qu'il faut insister quand même sur l'amour qu'il y a entre ces deux personnes. Même si j'ai respecté le fait que Claire ait brûlé des lettres, j'ai pas voulu dévoiler tout ce que j'avais lu à la bibliothèque, mais il faut quand même insister dessus parce que ça explique pourquoi, pour pouvoir tenir face à cette perte qui lui tombe dessus, parce qu'il n'y a pas de maladie qui dure pendant des semaines. On dit qu'en 3 jours, Paul Mauriac meurt. Donc il faut bien que quelque part, elle verrouille une part de son attitude et qu'elle cache en fait toute cette tendresse qui était exprimée avant par une attitude beaucoup plus stricte et sans doute beaucoup moins tendre dans les faits. Alors qu'elle l'est dans les écrits, parce qu'elle continue dans ses lettres à être très tendre avec ses enfants.
Alors, ce qui est intéressant aussi, là, on revient aux maisons, comme quoi il y a quand même des continuités. On sait, enfin, pour ceux qui sont plus familiers de la vie de François Mauriac, que, et vous êtes plus familière que quiconque ici, notamment à travers le métier que vous exercez de guide, que si Madame Mauriac a vécu dans beaucoup de maisons, François Mauriac est né rue du Pin Saint-Georges, c'était avant il était rue Arnaud-Miqueux avec son épouse, ils sont rue du Pin Saint-Georges, c'est là où ils ont été ensemble, où ils ont vraiment profondément vécu, mais après sa mort, elle va quitter la rue du Pin Saint-Georges, elle va habiter plusieurs, d'ailleurs, parce que vous avez dit Margot, au lieu de Magot tout à l'heure, c'est sans doute un clin d'œil à la rue Margot, qui est un des lieux où ils ont habité, il y a eu la rue du Four du Berger. Pour se finalement aller rue Roland. S'il y a une maison qui est importante, parce que c'est elle qui l'a construite et qui a été son chez-elle, c'est le chalet. Voilà. Et ce chalet qui se situe dans les Landes. Et en le mettant dans les Landes, je pense que c'est, et vous l'écrivez, c'est en lien avec les périodes heureuses qu'elle a pu vivre avec son mari, d'autant qu'elle va prendre le parti d'en faire un chalet plutôt arcachonné et qu'il passait des vacances à Arcachon après les avoir passées à Royan. Et que pour elle, ces vacances, c'était un petit peu le souvenir de l'amour qui les a liés. Et en prenant ce type d'architecture, elle est dans cette histoire-là. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'elle se sent chez elle.
Oui, alors c'est vrai qu'on se posait aussi beaucoup la question, enfin en tout cas moi et mes collègues guides, quand on faisait des circuits sur Mauriac, pourquoi cette femme déménage-t-elle aussi souvent dans Bordeaux, alors qu'on a le sentiment qu'à l'époque, c'est peut-être encore plus compliqué qu'aujourd'hui. Et alors, je n'ai pas la réponse, mais à mon sens, ce chalet, qui est effectivement dans cette sorte d'itinérance qu'elle a dans Bordeaux, c'est un point d'ancrage. Et dans les lettres, encore une fois, qu'elle échange avec sa famille, alors qu'elle vient de perdre son mari, 2 ans après, sa famille proche, sa mère, ses sœurs, Louis, donc son beau-frère, lui écrivent « Il faudrait manger, il faudrait te soigner ». On sent qu'elle est vraiment mal physiquement, qu'elle est sans doute en dépression. Et on le voit aussi sur les premières photos prises dans le parc du chalet, elle a l'air d'une tristesse infinie. Et c'est là qu'elle prend la décision, donc en 1889, 2 ans après la perte de son mari, de faire construire une maison. Donc elle, qui était plutôt une héritière, qui au départ est un peu, sans doute un peu insouciante dans tout ce bonheur, là, elle va en quelque sorte se révéler et elle va aussi se reconstruire par la construction de ce chalet. Donc c'est vrai qu'encore énigme, pourquoi une maison arcachonnaise à Saint-Symphorien en pleine lande girondine, c'est pas du tout l'architecture du coin. Et c'est vrai qu'ils sont heureux à Royan, à Arcachon, avec Paul, avec les enfants. Donc elle transporte en fait un peu de ce bonheur sur les terres qui lui appartenaient, puisque le chalet est construit sur le lieu dit Joannette, qui fait partie des terres dont il a hérité de son oncle Jean Lapeyre. Donc elle construit sur le territoire de Paul une maison où elle a été heureuse avec lui. Et en même temps, il y a sans doute une peur de la maladie. Donc elle construit aussi une maison qu'on appelle villa hygiéniste, c'est-à-dire ces villas qui permettaient de lutter contre la tuberculose avec un vide sanitaire, aéré, surtout que c'était aussi le top de la modernité à l'époque. Et puis le parc autour, ce sont les allées sinueuses de la ville d'hiver. Ça permet de couper le vent. Donc il y a tout ça qui joue. Et on voit qu'après, au chalet, d'abord, la maison est assez grande pour accueillir toute la famille et la famille est sacrée pour elle. Elle se remonte, quoi. Tout d'un coup, elle devient cette femme forte que l'on voit sur les photos qui pose dignement devant le perron du chalet. Donc c'est sans doute, en tout cas moi c'est comme ça que je l'ai interprété, comme sa maison à elle, mais qui permet de continuer un peu la vie qu'elle n'a plus avec ce mari qui a disparu.
Précisément, on va commencer à faire des liens avec François quand même, il va bien falloir y venir. Il y a un très beau passage dans le livre, je vais vous montrer, et vous exprimez l'amour qui liait Claire Mauriac à son fils François à travers une photo, alors vous n'allez pas voir, mais qui est celle-ci. Et vous avez un très beau passage, notamment vous parlez de l'amour qu'elle a pour cet enfant à travers la position de ses mains. Voilà, j'aimerais bien que vous m'expliquiez pourquoi cette photo vous a touché autant et qu'est-ce qu'elle exprime de manière très forte pour vous dans cette relation.
Alors, je voulais absolument cette photo déjà sur la couverture. Bon, il faut dire qu'il n'y a pas énormément... Enfin, si, il y a beaucoup de photos d'elle et de ses enfants, mais celle-ci, elle est justement prise pas très longtemps après la mort du père. Et aussi parce que François, il y a tous les enfants, mais François est celui qui est vraiment sous son bras. Alors, c'est sûr qu'après coup, je me dis peut-être que j'interprète comme je le veux, parce que ça peut être tout simplement ce gamin qui, à 6 ans, avait envie d'aller courir dans le parc. Elle l'a coincé comme ça. Elle lui a dit « Toi, tu bouges plus ». Et c'est pour ça qu'il a l'air si en colère. Mais pour moi, ça a fait écho à un passage du Mystère Frontenac. Quand il parle de la chambre de Blanche Frontenac, donc qui est quand même très proche de Claire, même s'il y a des différences avec elle, il dit que les enfants lisent autour ou jouent, et le petit dernier, il se colle contre sa mère, et il y a cette phrase quand même très forte où il dit « je voudrais rentrer dans ce corps ». Enfin, il ne parle pas à la première personne, mais il dit que le petit Yves voulait rentrer dans ce corps dont il était issu. Et c'est ce que je ressentais en regardant cette photo, comme un lien dans cette fratrie particulière entre le petit dernier et elle, comme si lui était vraiment... C'est le seul, d'ailleurs, qui est vraiment comme ça, coincé sous son bras. Donc, comme s'il y avait un lien aussi fusionnel entre les deux.
Je vais citer le passage, parce que c'est toujours bien de lire les extraits de texte des auteurs, parce que c'est la meilleure façon, souvent, de leur rendre hommage. « Tout contre elle prend place le petit François. L'enfant regarde droit devant, d'un regard sombre, où semble pointer comme un orage, une colère apatride. » D'une main, sa mère le maintient fermement, tandis que de l'autre, presque timide, elle effleure le bras de son fils comme on tenterait d'apaiser l'aile d'un oiseau blessé. Cette photo, dit tout de Claire Mauriac. La fermeté et la tendresse, le recul et la présence, intimement mêlés. Elle dit ses égarements et sa peine, sa droiture, sa sévérité et sa rigueur. Le feu, qui malgré tout continue de brûler, qui la consume et la transcende, tour à tour, suivant les heures de sa vie où désormais elle avance seule, apparemment si sûre d'elle-même et pourtant parfois tellement perdue. Voilà, je trouve ça un très beau passage et une très belle traduction de ce qui se passe dans une photo. Alors, François Mauriac et les mères, on sait que les mères sont souvent dures dans les romans de Mauriac. Et vous dites d'ailleurs qu'il y avait un peu de dureté chez Claire, cette volonté de tenir toujours droite. Et vous citez ce que vous a confié ou ce qu'a écrit Jean Mauriac, je ne sais plus. « Chacun se dispute en effet la grâce de cette mère aimante qui montre cependant peu sa tendresse. » Question d'éducation, de pudeur aussi, sans doute. Ça, c'est vous. Et Jean-Marie disait que bonne maman était l'injustice même. Vous évoquez, page 162, la Claire intransigeante et parfois injuste, contre laquelle s'érigera l'écrivain François Mauriac. Mais après, vous tempérez à travers un très beau témoignage de Pierre Mauriac, page 133. Dans ce petit monde qui semble parfois hors du temps, une discipline régnait, des vertus, des sacrifices, des mérites. Trop de dévouement, de sollicitude anxieuse, de tendresse, tempérer cette sévérité pour que le groupe connût la rupture, la désertion et se dispersa jamais. Non, dans notre foyer, ni dans notre entourage, ni dans notre foyer, ni dans notre entourage, pardon, je n'ai souvenance de scandales, de brouilles sérieuses, de successions ou partages orageux. Le nœud de vipère n'est pas de chez nous. Voilà. Donc ça, c'est quand même quelque chose que vous exprimez, où on retrouve d'ailleurs les sentiments extrêmement tendres hein, qu'il y avait familialement, d'ailleurs, aussi bien du côté de la famille de Paul que du côté de la famille de Claire.
Oui. Et c'est vrai que Claire, elle m'est apparue là comme étant celle qui tient la famille. C'est-à-dire que c'est pour ça que j'emploie souvent le mot vestale, comme si c'est elle qui doit justement faire en sorte que cette famille ne se disperse pas, que ses enfants ne se perdent pas. Et c'est un peu ce qu'on ressent en regardant cette photo. Et c'est vrai ce que dit Pierre. Je pense que ça donne aussi une certaine clé, c'est-à-dire que ces gens s'aiment, mais forcément, ne le montrent pas forcément. Quand j'ai rencontré, à la fin de mon livre, Catherine Cazenave, qui est une des petites filles de Clermont-Riac, et qui est la seule vivante aujourd'hui qui en a quelques souvenirs, elle avait 7 ans quand Claire est décédée, je lui ai dit « Votre grand-mère écrit des choses très tendres, elle écrit qu'elle aime trop ses petits-enfants », et là, elle m'a répondu « Ah bon ?» Et donc, elle m'a dit « Non, elle ne donnait pas cette impression-là ». Donc, c'est vrai que cette tendresse existe, mais en même temps, elle m'a dit aussi, Catherine Cazenave, que entre les frères Mauriac et leur sœur, on sentait qu'ils s'aimaient beaucoup, mais qu'ils ne se le montraient pas. Donc, il y a quand même une retenue qui vient peut-être de l'éducation aussi, mais il y a effectivement cette tendresse qui existe et que rappelle Pierre Mauriac.
En même temps, vous nuancez par rapport à ses enfants la dureté de Claire, parce que vous dites, et quand on connaît les destinées de chacun de ses enfants, elles ont été extrêmement différentes. Et vous considérez que la manière dont elle a accompagné aussi bien la destinée de François que celle de Jean, l'abbé, où ça était pour elle un immense chagrin de le voir partir dans les ordres, vous dites que cette tolérance qu'elle a eue pour le parcours de ses enfants est à l'image et du couple et de l'amour qu'elle a eu pour son mari qui était différent et cette loyauté quelque part envers ses enfants, c'est un peu la traduction de son mariage.
Oui, c'est en tout cas ce que j'ai ressenti, et c'est vrai, quand on voit le parcours de chacun de ses enfants, d'abord elle les a menés tous à l'âge adulte, mais c'est vrai qu'ils sont tous très différents, donc elle ne s'élève pas en fait contre leur destin personnel. D'ailleurs, elle le dit souvent, chacun arrivé à l'âge adulte doit tracer son propre sillon. Et elle a cette phrase que je répète souvent, elle dit à François en particulier, il y a une part de toi qui n'appartient à personne, en parlant de son écriture. Donc je pense qu'elle a une sorte de respect, même si des choses qui l'a heurté peut-être dans le personnage de son mari émergent dans ses enfants. À la limite, c'est aussi en quelque sorte une réussite parce que chacun trouve sa voie.
Et alors, vous établissez un lien entre l'écriture de François Mauriac et sa mère, hein, page 174, je vous lis. « Dans l'écriture de François Mauriac s'imprime le cœur de sa mère, plus que ses faits et gestes. Cette écriture est une transe, vous me dites un peu plus, non un récit véridique. L'admettre revient à lui rendre hommage, comprendre que derrière les non-dits vibraient les émotions captées par l'hypersensibilité d'un petit être, orphelin de père, nourrirait chagrin d'une mère inconsolable. » Je sais pas, j'ai dû faire une mauvaise transcription avec mon... Voilà. Enfin, pour vous, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la transe dans la relation et qu'on retrouverait dans l'écriture ?
En fait, ce que je voulais exprimer, c'était que je n'étais pas d'accord avec le fait que les familles de la bourgeoisie bordelaise que décrit François Mauriac, souvent avec une dent très dure, n'est pas forcément sa famille à lui. C'est-à-dire que les mères qui sont très sombres dans ses romans ne sont pas sa mère, que ces familles aussi très sombres ne sont pas forcément la sienne. Et quand je dis que c'est une transe, c'est que je pense qu'il a aussi, lui, coloré de sombre son enfance, alors qu'elle ne l'était pas forcément, parce qu'il a grandi, étant le petit dernier qui n'a aucun souvenir du père, au travers du prisme de la souffrance de sa mère aussi. Donc, il y a une part d'émotion qui ressort, mais il ne faut pas voir ça, en tout cas, moi, je ne le vois pas comme ça, comme un portrait précis de sa famille à lui. Donc, c'est ce que je voulais exprimer là.
D'ailleurs, vous, quelques lignes après, hein, vous dites un peu ça. Vous dites de cette écriture qu'elle se veut le spectre d'émotions issues d'une vérité transformée par le prisme d'une enfance estropiée de la présence du père, envahie par celle d'une mère dont la part ardente se condamne à rester muette afin de mieux résister. Donc c'est un peu dans le prolongement de ce que vous venez de dire. Alors, plusieurs romans de François Mauriac renvoient à son enfance. Pour vous, il éclaire par le lien qu'il unissait à sa mère. Alors, je vous cite encore, pour vous interroger. Il y a dans l'éclairage qu'a choisi de donner de son enfance le romancier François Mauriac quelque chose de plus profond qui prend racine dans l'essence même du lien particulier unissant l'enfant à sa mère.
Oui, parce que, voilà, François Mauriac, il ne faut pas oublier, c'est un écrivain. En plus, c'est pas le plus nul des écrivains. Donc je trouve que ça serait réduire en fait l'écriture de Mauriac en disant à chaque fois qu'il décrit sa famille, ce qui serait très réducteur. Donc en fait, c'est ça que je voulais exprimer, c'est-à-dire qu'il a bien sûr... il s'est nourri de ce qui se passait dans sa famille, il s'est nourri du personnage de sa mère aussi, comme n'importe quel enfant peut-être, mais il ne retranscrit pas forcément ça dans les faits. En revanche, il y a peut-être effectivement de l'émotion. Et c'est vrai qu'elle-même le dit, c'est une lettre très touchante qu'elle lui écrit quand il commence à faire paraître des textes et des articles où il parle de son enfance. Elle lui dit, mais enfin, d'où te vient cette enfance si malheureuse ? J'ai toujours eu le sentiment d'être si tendre avec toi. Et elle dit, ça doit quand même venir de moi, puisque j'ai interrogé ta sœur Germaine, qui me dit que non, je n'ai pas été si tendre que ça. Donc en fait, elle se remet en question aussi. Et c'est encore toujours la même chose, c'est-à-dire qu'il y a de la tendresse, il y a de l'amour, mais peut-être que dans les attitudes, c'est une femme quand même assez dure.
Alors en fait, vous l'expliquez en disant que Claire Mauriac est une héroïne mauriacienne. Oui. Et après, quand vous écrivez ça, vous, là, c'est toujours pareil, on est en correspondance. Claire Mauriac est une héroïne mauriacienne, la première. Non, elle n'est pas génitrix, car elle n'a jamais inspiré, ni dans les faits, ni dans les actes, les créatures parfois monstrueuses conçues par son fils. Claire Mauriac est l'essence même de l'héroïne mauriacienne en tant qu'image vivante du renoncement. En fait, en quelque sorte, de femme, elle devient exclusivement mère. Et c'est pour vous la racine de ce personnage. Mais l'idée même du renoncement, effectivement, me paraît au cœur de la plupart des romans de François Mauriac. Quand même.
Et c'est vrai que récemment, je me suis replongée dans le mystère Frontenac. Et Blanche Frontenac m'est apparue totalement différente de ce que j'en avais perçu auparavant. C'est-à-dire que le roman s'ouvre sur la colère de cette femme face à son beau-frère. Elle lui dit, enfin, en gros, elle est en colère parce qu'elle a l'impression que son beau-frère la cantonne à ce rôle de veuve, de mère, et la colère vient du fait qu'elle dit « je suis une femme », voilà. Et c'est ce qu'on retrouve dans Thérèse Esquerou, c'est-à-dire l'identité complètement rendue muette par la famille. Enfin, donc, c'est effectivement des femmes qui renoncent à une part d'elles-mêmes. Donc, ce que fait quand même Claire Mauriac, puisqu'elle est obligée de se renier, de renier sa part d'épouse, puisqu'elle se retrouve veuve et qu'elle restera veuve la plus longue partie de sa vie.
Alors, puisqu'on parlait d'une vipère en disant qu'elle était... On a vu à travers Pierre ou à travers ça. En fait, le roman de François qu'elle a préféré, c'est d'ailleurs Le Nœud de Vipère. Et donc, elle lisait avec beaucoup d'attention les romans de son fils, s'attachant beaucoup moins d'ailleurs à ces histoires de bourgeoisie et des clichés qu'on a développés entre Mauriac et Bordeaux pour surtout un roman qui s'appelle Préséance, qui est un roman de jeunesse. Or, en fait, elle aime fortement ses romans, puis elle les trouve très beaux, quoi. Je veux dire.
Oui, c'est vrai que dans ses lettres, et il y en a quand même un certain nombre, il y en a à peu près 300 entre elle et François, en tout cas à la bibliothèque municipale, donc il y en a sans doute d'autres. Mais jamais elle ne parle de. Jamais elle n'est choquée par le portrait qu'il peut faire de la bourgeoisie bordelaise ou des familles. Même par rapport à elle pourrait se sentir visée, non, elle est plutôt touchée, oui, par l'écriture de son fils et souvent impressionnée.
De toute manière, par rapport au cliché, la famille Mauriac n'était pas une famille qui appartenait à la grande bourgeoisie bordelaise et qui ne la fréquentait pas. Le père de François n'était pas un mondain. Et je pense que le prisme qu'il a par rapport aux gens qui occupent le devant du panier, il y a toujours la dent dure contre les gens, s'explique peut-être aussi par le rapport au père.
Oui, alors moi, j'ai eu l'impression que c'était aussi une sorte de dépit de la part de Mauriac, de, peut-être de jalousie, parce qu'il grandit sans père, donc il côtoie forcément à Grand Lebrun, sans doute, des fils d'eux, c'est-à-dire des fils de familles qui ont leur père et qui vont peut-être reprendre les affaires du père. Enfin, et lui, il grandit avec une ombre, en fait. Donc peut-être qu'il se sent un petit peu en porte-à-faux et c'est ces comptes-là qui règlent, en fait. Et aussi, sans doute, parce que les Mauriac au Chartron, quand Jacques Mauriac fait construire des entrepôts au Chartron, ce sont des marchands de bois mérin. Donc, dans la chaîne du négoce du vin, c'est quand même au bas de l'échelle. C'est-à-dire, le bois mérin, c'est ce qui va servir à faire les barriques. Donc, entre le négociant et le marchand de bois mérin, il y a le tonnelier. Et ce n'est pas les grandes familles du négoce. Donc, voilà pourquoi Mauriac appelle ça aussi la noblesse du bouchon. Parce qu'il doit se sentir un peu mal par rapport à ça. D'ailleurs, quand il parle de son enfance... À l'école, il dit toujours qu'il est le vilain petit canard, qu'il n'est pas beau, que c'est pour ça qu'il n'a pas de bonnes notes. Donc il doit avoir un complexe, sans doute, par rapport à ça.
Peut-être. Il me semble quand même que ce qui permet le lien entre le père et la mère de manière extrêmement vivante, ce qui, entre guillemets, les réconcilie ou les lie par-delà la mort de l'un et de l'autre, c'est précisément l'œuvre de François Mauriac. Je pense que c'est son écriture, ses romans, qui fait le lien entre ces deux êtres et continue à leur donner une vie forte.
Oui, puis ce qui est très touchant, c'est de voir que finalement, il a beaucoup de son père, mais sans l'avoir jamais su, puisque apparemment, il n'a jamais lu les différents écrits de son père. Et finalement, il se ressemble énormément parce que déjà, son père écrit quand même assez bien. Et en fait, dans sa pratique de la foi, François Mauriac est plutôt critique. C'est pas du tout la foi de sa mère à genoux qui plie pour ne pas attirer la foudre de Dieu. Mauriac, il se remet en cause souvent dans sa foi. Et c'est finalement le parallèle de ce qu'a fait son père, qui ne croit plus, mais parce qu'il analyse aussi tout cela par rapport au monde, par rapport à la philosophie. Donc en fait, il lui ressemble énormément, mais il ne l'a peut-être jamais su.
Il y a quand même, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, il y a un personnage merveilleux dans l'histoire des Mauriac et qui permet de continuer de faire le lien malgré tout avec le père. C'est son frère Louis qui a été, c'est l'oncle Xavier, je crois, de Michel Frontenac, qui a maintenu toujours ce lien avec le père, qui est un personnage exceptionnel, enfin, je veux dire, d'une.
Ah oui, Louis, autant j'ai découvert Paul Mauriac, autant j'ai découvert Louis Mauriac, d'abord dans ce lien lumineux qu'il y a entre les deux frères. Et aussi parce que Louis Mauriac, jeune, avant de perdre son frère, a un humour décapant parfois. Enfin, on sent que c'est quelqu'un de très fin aussi, avec beaucoup d'humour. Et puis, on sent qu'à la perte de son frère, lui aussi, il a quelque chose qui se casse, qui meurt et qui n'est plus exprimé. Mais en même temps, il est aussi, et c'est sans doute pourquoi il ne s'est jamais marié, il est aussi le pendant, enfin, il va remplacer son frère. Et avant que Paul meure, on sent que dès qu'il y en a un qui est dans la peine, puisque une fois Louis se casse la jambe, une autre fois Paul a la rougeole, et donc quand ils sont loin du foyer, ils vont chacun céder. Et là, on sent que Louis vient au secours de son frère disparu pour, en quelque sorte, prendre sa place auprès de sa nièce et de ses neveux. Donc Louis est un très beau personnage et Xavier du Mystère Frontenac est un peu pâle par rapport au vrai Louis, je pense, parce que à la fin de sa vie, Louis Mauriac écrit aussi une lettre assez touchante à François. Il n'est pas en bonne santé, il se fait soigner à Paris et François doit venir le voir avec sa femme Jeanne. Et Louis écrit tout penaud, oui, mais bon, tu comprends, tu vas pas venir me voir à cette adresse parce que je suis chez une vieille amie. Donc on comprend que Louis, en fait, a une âme sœur qui n'était pas présentée à la famille. Et c'est peut-être ça qui permet aussi à François de donner ce personnage de Xavier dans le Mystère Frontenac qui ne se rapproche pas du foyer de sa belle-sœur et de ses enfants parce qu'il a une amie, alors je ne sais plus si c'est Angoulême dans le roman. Et je pense que c'est une interprétation après coup de François Mauriac. Parce qu'en fait, dans les courriers, encore une fois, Louis, au contraire, à la perte de son frère, veut lâcher son poste de magistrat hors Bordeaux pour se rapprocher de la famille. Et c'est la famille, Claire, Jacques Mauriac, qui le dissuade en lui disant « Non, ça va mettre un frein à ta carrière, donc tu ne reviens pas à Bordeaux. » Alors que dans le Mystère Frontenac, c'est l'inverse. L'ange Frontenac lui reproche de ne pas revenir à Bordeaux.
Il y a un personnage un peu plus sombre quand même, où il y a en tous les cas des attitudes un peu plus sombres, c'est celui de Clara.
Oui, alors Clara, c'est
pas
un peu...
un personnage très connu dans l'histoire des Maria.
Oui, Clara, c'est la sœur du grand-père qui, à la naissance, a eu un problème de forceps. La famille, quand Jacques Mauriac perd son père, Jean, il prend sa sœur Clara chez lui. Mais en même temps, il y a un jugement qui est donné pour que Clara n'ait plus de droit, en fait, à gérer son héritage à elle. Et Clara, voilà, oui, elle passe un peu comme une ombre, on ne sait pas trop... Paul, dans son journal, la cite de temps en temps, donc on a le sentiment qu'elle parle au moins clairement pour les membres de sa famille, mais pas de nom non plus sur le tombeau des Mauriac à Langon, donc je suppose qu'elle est enterrée là, mais c'est un peu une ombre. Même dans les écrits de Claire, Clara existe sans exister, en fait.
Alors, ce que l'on retrouve aussi, alors après, pour revenir un petit peu sur Claire, c'est que ça a été une extraordinaire... pas femme d'affaires, mais elle tenait ses maisons. Je sais qu'elle en avait, hein, avant de les répartir entre ses enfants. Il y avait le chalet, il y avait la maison de Bordeaux rue Roland. Enfin, elle était à la gare. Donc, ça a été quand même une femme extrêmement proche du réel et qui a su gérer les affaires de
manière. Oui, alors, je pense qu'elle le devient aussi avec l'aide de Louis. Parce qu'au départ, c'est Louis qui prend en charge tout. Puis, petit à petit, il lâche du lest. Et elle le devient parce qu'à la fin de sa vie, justement, quand François part à Paris, elle lui écrit souvent « Attention, on va éditer ton roman à compte d'auteur ». Enfin, c'est pas le roman, c'est les mains jointes, c'est les poèmes. Mais on va sans doute après te demander si tu peux participer financièrement à telle impression ou édition. Surtout, tu ne réponds pas avant de me consulter. Tu dis que tu ne peux pas parce que tu es attachée à tes frères. Enfin, elle gère ça aussi de loin. Et donc, elle est devenue... elle a révélé sans doute ce qu'elle avait hérité de son père, qui donc était très affûté en affaires. Et elle a géré tout cela pour pouvoir transmettre. Je pense que c'était aussi sans doute une de ses peurs, puisqu'elle doit transmettre tout ça à ses enfants. Ça ne lui appartient pas, en fait.
Et donc, elle donne le Malagard à François, chalet à Pierre. Donc, elle répartit, j'imagine, maison de Bordeaux à Germaine.
Oui.
Hein. Elle fait et elle disparaît deux ans après.
Hein, elle donne tout, enfin elle répartit toutes les propriétés en 1927 et elle meurt en 29. Mais on sent en 27 qu'elle est fatiguée, qu'elle a plus envie en fait de gérer tout ça. Et donc elle transmet à ses enfants, mais elle a quand même une dernière lettre à François où elle lui dit bon je veux pas t'embêter, mais voilà ce qu'il faut que tu fasses à Malagard. L'époque de d'achat de barriques neuves va arriver. Il y a tant de barriques, de tel vin dans les chais. Tu gardes celui-là, tu te sers de celui-là pour autre chose. Enfin, une dernière fois, elle donne le mode d'emploi et puis après, elle les laisse faire.
Voilà. Alors, la disparition se fait. François est en Espagne avec Ramon Fernandez, si je ne m'abuse. Le père de Dominique. D'ailleurs, Dominique Fernandez était le filleul de François Mauriac. Et voilà, ce sera une grosse déchirure pour lui.
Ben surtout que, encore une fois, dans les archives, il y a deux petites cartes écrites par Claire dans cet intervalle, là où François vient la voir à Bordeaux, en allant en Espagne en juin 29. Et il ne repasse pas, donc, comme il l'explique à plusieurs reprises, pour l'embrasser, parce qu'il se dit « je vais la voir à Malagard bientôt ». Et il y a une petite carte où elle écrit à Jeanne Mauriac, donc la femme de François à Paris, « est-ce que vous avez des nouvelles de François ? On sent qu'elle est inquiète ». Elle dit « Je pars à Tossat mardi, je vais attendre le courrier du matin, écrivez-moi si vous avez des nouvelles de François ». Et puis, ben, quand on sait qu'effectivement, elle décède quelques jours après qu'il ne l'a pas revue, c'est d'autant plus poignant.
Alors, une question que je voulais vous poser, que je pensais la poser au début, mais je vais la poser à la fin, c'est pourquoi vous dites le roman d'une mère alors qu'il est dit en quatrième de couverture, c'est taquin, mais il est dit en quatrième de couverture que justement vous allez chercher l'identité de cette femme, plus que, qui pour vous n'est pas une fiction le moins du monde, mais voilà.
Alors ça, c'était un peu pour me dédouaner des erreurs d'interprétation que j'aurais pu faire. Puisque justement, je me suis attachée à la véracité de ce que j'écris. Bon, bah, il y a toujours une part de subjectivité. Donc, je ne sais pas si je trahis ou non cette femme. Ça, c'est une grande peur pour moi. Donc, mettre le roman d'une mère, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'il y a toujours une part, effectivement, qui va m'échapper. Et puis aussi parce que ça fait le lien avec son fils, romancier. Et puis voilà, parce que sa vie peut être aussi envisagé sous l'angle romanesque. En tout cas, ce que je voulais faire, ce n'était pas une thèse historique, donc c'était une histoire Donc c'est aussi un peu ce que ça veut dire.
C'est aussi très profondément un livre d'attachement, parce que je le disais en introduction, vous avez un attachement qui croît, enfin, au fil des pages, et qui d'ailleurs sur les dernières pages est évidemment manifeste. Vous êtes très profondément attaché, lié à ce personnage. Moi je trouve d'ailleurs que Jeanne, la femme de François, ce qui mériterait quelque chose, est un personnage absolument magnifique. D'abord, effectivement, elle était très belle. D'ailleurs, pour l'anecdote, François avait été fiancé, ce qui avait eu oui. des petits mots avec sa maman, avec la fille du compositeur Chausson, et avec Marianne Chausson. Ça se passait pas très bien. Et d'ailleurs, sa mère ne voyait pas d'un très bon œil ce mariage.
Disons qu'elle a... Si, le mariage, c'est assez amusant. On sent que, parce qu'il est à Paris, elle est à Bordeaux. Donc, il lui explique son idylle avec Marianne Chausson. Et... Elle la pressent un peu capricieuse, parce qu'un coup, Marianne dit oui, le lendemain, elle dit non, ensuite, elle redit oui, et puis finalement, elle dira non. Et on sent que Claire se retient, c'est-à-dire qu'elle n'a pas envie de dire qu'elle est contre. Mais parfois, elle laisse un peu échapper des petites phrases en disant « je vais lui faire passer son goût pour les belles robes et les beaux chapeaux ». Mais voilà. Et puis finalement, c'est quand Marianne dit finalement le dernier non que là, elle laisse un peu apparaître son énervement, on va dire.
Est-ce que vous allez continuer ce travail en écrivant l'histoire de ce personnage merveilleusement attachant qui est Paul Mauriac?
Alors, je crois pas, parce qu'il me semble avoir dit beaucoup de choses sur lui dans le livre. En revanche, l'idée m'est venue, autant j'avais le sentiment que Claire Mauriac était venue me chercher pour que je raconte son histoire, autant là, c'est Paul qui vient me chercher. J'ai envie d'inventer une rencontre entre François Mauriac adulte et son père qui ne serait pas mort. J'ai l'image, en fait, du père dans une bibliothèque, penché sur ses écrits, et ce fils qui vient le voir. Après, je ne sais pas ce qui va se passer, mais j'ai envie de leur donner cette rencontre qui n'a jamais eu lieu.
Bon projet. Merci beaucoup.
Merci.